Guillaume Saburel, bonsoir.
Bonsoir.
Donc tu es venu au LAG, le lieu autogéré de Liévin, à la demande des objecteurs de croissance, enfin sur l'invitation des objecteurs de croissance, qui souhaitaient depuis un moment te faire venir, hein, début sur Métropole Barbare. Mm-hmm. Bon, la pandémie est passée par là, donc on est arrivé à ton deuxième opus sur cette thématique qui s'appelle... Oui. Pour en finir avec les grandes villes.
Oui, manifeste pour une société écologique post-urbaine.
Voilà, donc un manifeste. Et ça, c'est clairement écrit dessus. Donc, on n'est pas sur un ouvrage de type universitaire, mais on est sur un bouquin qui est une prise de position d'un universitaire, hein, puisque tu es géographe et politiste,
oui.
Enseignant, oui. Chercheur.
Oui.
Voilà. Et donc, là, c'est toi qui t'exprimes avec le recul, avec ta formation d'universitaire sur... la thématique des grandes villes et surtout sur la métropolisation. Alors, est-ce que tu peux, pour les auditeurs de Micro Rebelle, de manière synthétique, nous donner une photo de ton bouquin et puis ensuite, on va essayer d'en prendre quelques faits qu'on a considérés, enfin que moi, j'ai considéré comme saillants.
Merci pour l'invitation. C'est les deux livres que j'ai essayé de présenter. La thèse qui est commune, donc d'un côté aux Métropoles Barbares et de l'autre au Manifeste, c'est d'essayer de remettre en débat politique la ville et particulièrement la croissance urbaine, la grandeur urbaine, considérant que cette grandeur nous fait écologiquement entrer dans un moment qui est un moment catastrophique de dévastation du vivant. Généralement, on critique la croissance urbaine sous l'angle plutôt... social, puisqu'il y a des évictions et des exclusions en cascade. Sous l'angle politique, ça nous dépossède d'une capacité d'intervention. J'ai recensé ces choses-là et je les mets en débat, mais après d'autres. Il me semble que la question écologique sert particulièrement de fil rouge, puisque croissance urbaine, urbanisation généralisée, métropolisation, je développe beaucoup ce thème-là, puisque c'est ce qui prend le relais ou ce qui actualise l'urbanisation généralisée sur les 40 dernières années, sont responsables en premier lieu de l'écocide dans lequel on est collectivement embarqué. Que ce soit sous l'angle, certes, des pollutions et des nuisances, mais aussi du dérèglement climatique, de la faible autonomie alimentaire, des différentiels thermiques. Les grandes villes commencent à être vécues de plus en plus douloureusement. La question de l'invivabilité ou de l'inhabitabilité des grandes villes se voit posée. Le manifeste est sorti pendant la période de pandémie et de confinement, et on parle à cette occasion-là d'un exode, c'est un peu exagéré, mais de gens qui se posent des questions et qui décident d'en partir. Les autorités se posent elles-mêmes la question du devenir métropolitain et de la grandeur urbaine. Voilà ce dont on a parlé, et je ne m'arrête pas là, j'essaye aussi, à la jointure des deux opus, de voir quelles pourraient être les alternatives à ça. Et effectivement, une des alternatives proposées est celle... d'un repeuplement un peu plus vertueux, c'est-à-dire d'une décroissance urbaine. Je pose clairement la question de la taille limite de nos habités, de la manière dont on pourrait faire communauté et société, dans un rapport un peu plus responsable, décent, voilà, qui ferait grandeur d'ailleurs, un peu plus responsable et décent à l'écologie. Donc, les Métropoles Barbares étaient plutôt, effectivement, avec des références un peu universitaires. Le manifeste est un point de vue plus personnel, plus engagé, sans aucune référence, un peu plus court et un peu plus direct, qui se termine par quelques propositions d'adresse aux politiques. J'y crois pas plus que ça. Je vois mal les institutions se saisir de ce que je suis amené à leur proposer, mais après d'autres. Mais néanmoins, pour essayer de dresser, tisser des fils, que je qualifie comme rouges, de réempaysannement, de réensauvagement, de déconstruction de l'ensemble des médiations fétichisées du capital qui s'exercent particulièrement sur nos corps et nos esprits dans les grandes villes. C'est là où on intériorise une forme d'illimitation, de démesure généralisée, de rapport à la culture un peu nombriliste par moment, de rapport aux autres qui sont totalement désécologisés ou complètement détachés des faits de nature et d'environnement. Voilà ce que j'essaye de montrer, voilà, en empruntant à d'autres et en essayant de pousser un peu le raisonnement sur une autre géographie, une géographie écologique du vivant. Parce que je crois sincèrement que l'œuvre civilisationnelle de l'humanité, qu'est la ville, l'épopée des villes, ne date pas d'hier, est arrivée à un point limite, celui de faire passer par trépas l'entièreté de notre belle planète.
D'accord. Donc tu penses que pour la ville, comme pour les matières premières, comme pour des dizaines et des dizaines d'autres exemples qu'on pourrait trouver, c'est le gigantisme,
oui.
C'est la volonté de puissance, de grandeur, de croissance
oui,
qui nous amène là.
Complètement. Et qui est aujourd'hui réactualisé par la métropolisation dont on parle et le discours de marketing territorial, d'attractivité, de toujours faire venir, de trier, parce qu'il y a des gens qui sont plus rentables à faire venir que d'autres qu'on va exclure. Effectivement, la démesure, la grandeur, le grossissement sont aujourd'hui la cause principale de l'effondrement du vivant qui a commencé depuis quelques années, mais qui est concomitant, hein, chronologiquement parlant, avec ce dessin qui est mortifère, hein, de la grandeur urbaine. Moi, pour moi, c'est la première des causes. Là où ça devient peut-être encore plus stimulant et rassurant, c'est que les corps commencent un peu à souffrir, que les esprits commencent à se poser quelques questions, et que toutes les enquêtes commencent à converger pour tout simplement attester d'un questionnement naissant. Là où c'est dramatique, c'est que les institutions n'envisagent jamais une option d'une autre géographie, d'un autre peuplement, qui serait, à taille plus mesurée, voilà, plus décente vis-à-vis du vivant. Les écrits sont clairs, de plein d'origines très différentes et à des échelles de temps variables, mais grosso modo, on en a discuté ce soir, la taille limite dans nos contrées, sous nos latitudes, avec nos écosystèmes, serait de l'ordre de 20 à 30 000 habitants grand maximum, pour faire autonomie, pour ne plus se rendre dépendant de légumes et de fruits qu'on cultive à 800 km ou d'une énergie centralisée qu'on fait venir moyennant une infrastructure qui elle-même est dispendieuse écologiquement et qui produit effectivement un rapport au pouvoir qui est un rapport de dépendance. Voilà. On se soumet, en fait, on s'attache à des réalités politiques qui sont éminemment centralisées, hiérarchiques. On est dépossédé d'une capacité qui est, en fait, de produire ce dont on a besoin. Donc la question des besoins est posée. De quoi allons-nous devoir nous séparer pour mieux nous réattacher? De quels besoins on va devoir, à un moment donné, s'interroger de l'utilité pour mieux, véritablement, aller sur des besoins essentiels et pas artificiels? Voilà ce dont la ville nous a dépossédé comme questionnement collectif, comme puissance individuelle d'agir.
D'accord. En fait, et tu viens de le dire, quelque part, les institutions, les responsables ne prennent pas la mesure de tout ça, puisqu'il y a un moment où tu parles de ces petites villes ou de ces villes moyennes qui singent, hein, je reprends presque tes propos,
oui, tout à fait, oui.
Les métropoles. Ouais. On est en même temps dans un endroit où je pense que les auditeurs se reconnaîtront. Hein. On a Lens-et-Liévin, 32, 33 000 habitants de chaque côté, qui pourrait n'être qu'une seule ville ou qui pourrait être plutôt plein d'autres choses, qui se tirent la bourre,
ouais,
font la course et jouent de l'attractivité. L'un a le Louvre-Lens, l'autre vient d'avoir les réserves du Louvre-Paris, ouais. Et les deux parlent d'attractivité. Alors qu'on est sur deux zones sinistrées dont force est de constater qu'elles sont guère attractives,
oui,
qu'elles pourraient peut-être être vivables, mais qu'en termes d'attractivité, c'est compliqué. Donc pour toi, tu n'attends pas d'évolution des institutions, donc pour toi c'est une émergence citoyenne, c'est...
Oui, tout à fait. C'est, pour moi, les institutions sont dans un modèle croissanciste et développementaliste. C'est pour ça que même à petite échelle, des petites villes singent le modèle. On a une uniformisation, hein, des réponses de l'aménagement et de l'urbanisme. Hein. Voilà. Les mêmes pavages au sol, les mêmes types de transports en commun, alors à moindre envergure, mais néanmoins, on retrouve les mêmes offres commerciales, les mêmes enseignes sont représentées. Enfin, c'est dramatique. On est à peu près de plus en plus nulle part, partout, nulle part. Donc effectivement, ça ne peut émerger que de ce que je disais, la souffrance des corps et les questions qui commencent à se poser à hauteur de femmes et d'hommes. Et là, c'est à remarquer, il y a de plus en plus de gens qui décident de se retrancher, de se retirer, de trouver refuge, de s'affranchir, y compris de l'intérieur, mais de plus en plus en imaginant et en envisageant de partir, considérant que le deus ex machina n'est peut-être pas réformable, en tout cas transformable de l'intérieur. Pour moi, c'est assez évident. D'où la question de l'exode, d'où la question d'un repeuplement un peu plus vertueux, d'où la question des campagnes et des ruralités, et j'insiste particulièrement sur le fait qu'il va falloir décoloniser ces imaginaires de la consommation si véritablement on veut partir sans aller coloniser des espaces qui, encore vierges a priori, même si tout est anthropisé, des espaces un peu plus ouverts, avec une terre un peu plus accessible. S'il s'agit d'y aller avec son SUV pour réclamer la 5G et avoir une piscine chauffée, un jardin avec des barbelés, il n'y a aucun intérêt à ça. Donc ça n'est pas fantasmagorique ou idéaliste au point de croire que de sortir de la ville résoudrait le problème. Non, il y a véritablement des imaginaires de la consommation, des rapports au travail, des rapports à la propriété, des rapports à la nature, mais on ne pourra, selon moi, pas se poser ces questions fondamentales sans, à un moment donné, se retirer, se retrancher des cadres urbains qui nous ont fait, de manière indolente et insouciante, intérioriser des comportements totalement contre ou anti-écologiques.
D'accord. En fait, on est là sur le pas de côté cher à beaucoup de tes croissants.
Oui, c'est tout à fait.
Le pas de côté, pas vouloir revenir en arrière, parce que le passé n'est pas mythique, n'était pas mieux. Ouais. Mais faire un pas de côté, se sortir, décoloniser, là on retrouve la touche, hein, décoloniser nos imaginaires.
Complètement.
Ouais, c'est ça, hein, on est bien là-dedans.
Tout à fait.
Ouais, ok. Bon, c'est pour que nos auditeurs situent bien, hein, d'accord. Donc, à un moment dans ton intervention tout à l'heure, tu dis, ça m'a vraiment intéressé, l'urbain est intouchable, parce que c'est l'urbain, aujourd'hui, qui crée le profit. C'est là que se crée le profit. Tu peux un peu développer
Ben, en fait, dans la longue histoire...
L'Eldorado d'aujourd'hui, pour le profit, l'urbain
C'est le phénomène de métropolisation sur les 30 ou 40 dernières années. La métropolisation est arrivée avec la conversion néolibérale de l'économie mondialisée. Donc, il y avait des villes industrielles, hein. Même sur les deux siècles écoulés, la ville a été le creuset de création par le productivisme, hein, de la richesse, de son accumulation, de sa reproduction, de la division du travail et de toutes les aliénations qu'il y a derrière. Sauf qu'auparavant, pour la ville industrielle, il fallait avoir la main-d'œuvre à demeure, il fallait avoir les ouvriers à proximité. La métropolisation, c'est aussi une dématérialisation des 30 ou 40 dernières années. Et effectivement, l'ère néolibérale a besoin de réarmer les villes pour une autre économie, pour d'autres activités. Et donc, c'est l'Eldorado, en tout cas, c'est actualisé par une ère économique particulière, de capitalisme ultime, tardif, culturel, cognitif, on peut l'appeler de différentes manières, mais qui vont voir dans les villes, l'intérêt de faire fructifier un capital qui est de moins en moins matériel, voilà, qui est de plus en plus informationnel, communicationnel, financier, etc. Donc, du coup, c'est vraiment le stade ultime pour moi. Voilà, métropolisation, ce sont les villes qui se hissent au rang d'acteurs de premier rang, au détriment des États, fondamentalement. Voilà. Il y a un bon mot du maire de Denver de 2007 qui dit « Le 19e siècle était le siècle des empires, le 20e des États, le 21e est celui et serait, et on est déjà dedans, des grandes villes. » Les grandes villes, aujourd'hui, je donnais l'exemple pendant la discussion, il y a le modèle, c'est la ville-monde, New York, Tokyo, Paris, Séoul, Hong Kong, etc. On a 120 métropoles d'après les classements internationaux, voilà, qui agitent quelques personnes avec quelques intérêts financiers. On a 120 villes qui déclinent ce modèle de la ville-monde, ça fait 127. Je suis au maximum des compétences en mathématiques. Hein, voilà. Donc 127 villes, c'est 12% de la population mondiale et près de 50% du produit intérieur brut, du PIB à l'échelle internationale. C'est là où la richesse se crée, à condition de grossir rapidement, à condition d'attirer les talents, à condition de trier les peuplements. Mais ça se fait au détriment d'une accélération, d'un grand emballement, et au détriment à la fois des individus qui se voient exclus, évincés, rejetés, on est triés sans avoir choisi. C'est le renchérissement du coût d'accès, hein. C'est le foncier inaccessible dans les centres-villes, c'est la gentrification et la ségrégation. Et écologiquement, c'est dramatique, parce que du coup, la mondialité qui se joue derrière, c'est celle de l'emballement. Donc un niveau de productivisme, une consommation, c'est dans les grandes villes que sont prescrits tous nos comportements anti-écologiques. Voilà, de la consommation du numérique, du divertissement par Netflix, de la connectivité, de la mobilité. On voyage de métropole en métropole, et de temps en temps, on va s'aérer dans le village planétaire 15 jours par an ou 3 semaines par an. Voilà, les modes de vie métropolitains sont en train de flinguer la planète. Donc, c'est ça l'ère néolibérale. C'est ça l'ère néolibérale qui fait de la ville, dorénavant, le totem, le parangon de ce que l'on devrait tous, finalement, être dorénavant.
D'accord. Alors, on a beaucoup parlé, hein, dans ces derniers moments autour des gilets jaunes, autour de la crise écologique, de la nécessité des fin du monde, fin du mois.
Ouais,
finalement, on retrouve dans ton livre, c'est une problématique qui traverse. Moi, j'ai noté plein de choses, mais j'ai noté les classes populaires sont assignées à résidence en ville.
Oui.
Et ne peuvent pas quitter la ville.
Complètement.
C'est clairement.
Tout à fait.
Donc on est bien sur à la fois une question sociale et écologique.
Complètement. Et alors on peut rajouter que les classes populaires sont assignées à résidence, voilà. Et partir, c'est toujours plus les abandonner à l'enfer du béton. Donc il va bien falloir à un moment donné se poser la question. Alors même que les classes populaires ont aujourd'hui, pour des raisons non choisies, mais de plus en plus néanmoins cultivées, c'est-à-dire pensées, des écologies qui sont magnifiques, en fait, d'une frugalité, la sobriété non choisie, par moments imposée. Elles sont en fait paradoxalement, comme d'autres groupes sociaux, mais les classes moyennes ont encore quelques moyens d'essayer de retrouver un peu de cohérence, elles sont soumises à un paradoxe définitif. Elles sont s'émanciper devrait-elle être par la consommation à tout craint, et simultanément dans leur tradition, dans les différentes transmissions générationnelles et dans les modes culturels, on trouve une écologie de la lenteur et du ralentissement, de l'échange et de la solidarité, de la production locale et du jardinage. Les jardins ouvriers en ont attesté des décennies durant. Donc, c'est dramatique. C'est ceux qui sont assignés à l'enfer du béton, maltraités par le capital et toutes les autorités publiques qui, pour moi, ne font que perpétuer cette chose-là, alors même qu'elles devraient, là, pour le coup, être le vrai parangon, le vrai totem, le vrai modèle à suivre. Donc, on a là, gilets jaunes ont donné à voir d'autres manières d'habiter en dehors des grandes villes, voilà, et ont réclamé d'avoir un peu de reconnaissance de leur dignité, à pouvoir vivre un peu différemment sans être en permanence soumis aux diktats très urbains et métropolitains des manières d'être et de vivre. Et les classes populaires dans les quartiers populaires des villes sont elles-mêmes soumises à toutes les stimulations de la consommation dans ce vieux récit du parpaing comme lingot du pauvre, c'est-à-dire de l'émancipation par la consommation et la proximité par des travaux et des activités qui sont dramatiques. Voilà, on parle quand même de métiers qui n'en sont pas véritablement. On leur offre un emploi qui est totalement disqualifié. Donc là, il y a bien quelque chose autour du populaire, dans sa diversité, voilà, urbaine comme périphérique, qu'il conviendrait d'unir pour véritablement épauler, aider ce que pourrait être pour moi une réelle décroissance d'abord urbaine.
Merci Guillaume. Alors on va rappeler le titre.
Pour en finir avec les grandes villes, Manifeste pour une société écologique post-urbaine, édité aux passagers clandestins.
Aux passagers clandestins, ça coûte 13 euros. C'est un bouquin qui libère, et ça franchement, c'est quand même par les temps qui courent intéressant et bon à prendre. Voilà, nous ce qu'on espère franchement, le groupe des objecteurs de croissance qui a invité Guillaume, c'est pouvoir poursuivre dans nos réflexions et poursuivre avec vous tous, et puis pourquoi pas accueillir à nouveau Guillaume Faburel, puisqu'il nous a informé qu'il y avait un troisième opus en,
oui, pour la rentrée prochaine.
En préparation. C'est donc voilà, nous, on en prendra connaissance et puis on espère vraiment le faire revenir à nouveau s'il le souhaite, s'il le peut. Et puis, ben, repartager ensuite avec vous tout ce qu'on a pu tirer de ce bouquin. Et très sincèrement, la fin qu'on n'a pas pu aborder là, c'est-à-dire le volet proposition
oui.
Ben, il est clair. Et on a aussi beaucoup besoin de lumière, puisque dans ce pays des lumières, on a parfois ces temps-ci l'impression que quelqu'un les a éteints sans qu'on sache très bien qui, ou tout au moins, on a bien compris pourquoi. Voilà, bonne fin de journée, bonne soirée, et merci.
Merci à toi.
Merci.